En Australie, le gouvernement fédéral nie qu'il y a des problèmes avec le système automatisé de recouvrement de Centrelink. Ce nouveau système automatisé, en marche depuis juillet, servira au gouvernement à récupérer 4 milliards de dollars en dette sociale. Des milliers d'avis de règlement de dette ont déjà été envoyés. Plusieurs personnes qui ont reçu ces avis de règlement du gouvernement disent toutefois qu'il y a erreur. Mais le ministre des Services sociaux, Christian Porter, défend le système.
Since the start of the financial year, we've sent out 169,000 review letters. These are not debt letters. These are letters which use automated cross-referencing and information from the ATO to information received at Centrelink, which shows that there might be a discrepancy. They are polite letters, an initial letter which go to a welfare recipient saying that an issue has arisen, that there may be a discrepancy and we require some further information. You can go online and do that in a very seamless and easy way.
Le ministre des Services sociaux, Christian Porter. Le gouvernement pense à rendre le test de citoyenneté plus difficile pour les immigrants qui souhaitent devenir Australiens. Le ministre de l'Immigration, Peter Dutton, veut que le test se concentre plus sur la capacité des immigrants à s'intégrer à la société australienne, entre autres sur leur intérêt d'apprendre à parler anglais, d'éduquer leurs enfants et de trouver un emploi. Le test de citoyenneté vient du gouvernement Howard en 2007. Il comprenait alors des questions sur l'histoire australienne, le sport, le gouvernement, la géographie et les traditions. Le gouvernement Rudd l'a modifié en 2009 pour inclure plus de questions sur les responsabilités civiques. Le lieu de l'ambassade australienne en Israël devait être discuté lors de la visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Australie. C'est que l'ex-premier ministre australien Tony Abbott a dit qu'il voudrait voir l'ambassade déménager de Tel Aviv à Jérusalem, comme prévoit faire Donald Trump avec l'ambassade américaine. Mais la ministre des Affaires étrangères Julie Bishop a dit que le pays ne planifie pas de déménager l'ambassade. La députée israélienne Sharon Haskell a dit qu'elle discuterait de la suggestion de Tony Abbott avec Julie Bishop. Le député travailliste Michael Denby, qui est juif, a dit à ABC se ranger du côté de Tony Abbott.
I wish Mr. Abbott had said this when he was PM. Embassies in Jerusalem don't determine its status. King David established it as Israel's capital 3,000 years ago.
Le député travailliste Michael Denby. Les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud implorent le public d'être prudent après la noyade de moins 14 personnes dans l'État durant la période des fêtes. L'incident le plus récent est celui d'un ancien juge de 83 ans qui a été retrouvé mort dans sa piscine à Sydney. On attend aussi le rapport du coroner après que le corps d'un homme de 44 ans de Cooma, porté disparu le 1er janvier, ait été retrouvé par des plongeurs dans un lac des Snowy Mountains. Ailleurs en Australie, un homme dans la vingtaine s'est noyé dans un lac à l'est de Perth et un homme de 19 ans s'est noyé sur la Gold Coast. Une bonne nouvelle, il est de nouveau possible de se baigner à Melbourne après que les plages aient été fermées durant plusieurs jours en raison d'une contamination par des matières fécales. C'est les fortes pluies des derniers jours qui avaient causé cette contamination, mais la situation est revenue quasi à la normale au cours des dernières heures. La qualité de l'eau des 36 plages de la baie de Port Phillip est soit bonne ou correcte. Il faut toutefois demeurer prudent et ne pas se baigner près des drains d'eau pluviale ou si l'eau semble sale. Passons maintenant à l'international. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque sur une boîte de nuit d'Istanbul qui a fait 39 morts le 1er janvier. Le tireur est toujours en fuite après l'attentat. Les dernières informations avec Tudor Tepeneag.
Au moins 8 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête et la chasse à l'homme était toujours en cours lundi soir. Barrage routier, présence accrue de militaires et de policiers, la ville d'Istanbul reste sous haute tension. Mais l'enquête semble difficile, même si le vice-premier ministre Numan Kurtulmuş, qui est également porte-parole du gouvernement turc, a indiqué que des données relatives aux empreintes digitales et à l'apparence du tueur avaient été obtenues. Nous allons rapidement entrer dans le processus d'identification, a-t-il rajouté, alors que que les enquêteurs ont redoublé leurs efforts à la recherche du moindre indice à l'intérieur de la discothèque. Le dernier bilan de la tuerie fait état de 39 morts, dont 26 étrangers, et de dizaines de blessés, 46 personnes étant encore hospitalisées. Cette attaque est un message adressé à la Turquie contre ses opérations décisives menées de l'autre côté de la frontière, a dit également le porte-parole du gouvernement, rajoutant que les opérations turques en Syrie perturbent les groupes terroristes et leurs commanditaires.
Tudor Tepeneag pour RFI. En Irak, une explosion, revendiquée par le groupe État islamique a tué 35 personnes et en a blessé 60 à Bagdad. Le premier ministre Eder al-Abadou a dit que les responsables ont attiré des gens à la recherche d'emploi dans un véhicule, leur promettant du travail avant de faire exploser le véhicule. Le président français François Hollande était à Bagdad au moment de l'attaque pour rendre visite aux soldats français dans le pays. Il a insisté sur la nécessité de lutter en Irak contre le groupe État islamique pour prévenir des actes terroristes en France. On l'écoute.
Il y a des djihadistes français à Mossoul. Il y en a aussi à Raqqa. Et nous les combattons comme tous les autres djihadistes, quelle que soit leur nationalité, puisqu'ils nous attaquent, puisqu'ils préparent des attentats sur notre propre sol, puisqu'ils nous font la guerre. Si ces combattants français sont pris par les autorités irakiennes, ils relèvent des autorités irakiennes et ils seront soumis à la justice irakienne. S'ils tentaient de revenir en France, et certains avec leur famille, nous sommes à ce moment-là conduits à les arrêter, les appréhender et les juger et les condamner par la justice française. Voilà ce qu'est notre responsabilité.
Le président français François Hollande à Bagdad. Le fils du président de la Guinée équatoriale subit un procès en France où il est accusé d'avoir acheté des maisons, des voitures de sport et des objets de luxe avec des fonds publics. S'il est trouvé coupable de corruption, blanchiment d'argent et détournement d'argent, Théodorin Obiang fait face à 10 ans de prison. Le renvoi est mis en délibéré et on attend la décision mercredi matin. Les précisions de Carole Valade.
Lors de cette toute première audience dans l'affaire dite des biens mal acquis, ce n'est pas le fond de l'affaire qui a été abordé, mais une demande de renvoi présentée par la défense de Théodorin Obiang. Plusieurs raisons sont invoquées, principalement un manque de temps pour préparer sa défense, expliquent les avocats. En somme, les conditions ne seraient pas réunies pour que le fils du président équato-guinéen puisse bénéficier d'un procès équitable. Le prévenu est mis en examen depuis 2014, rétorque l'avocat des parties civiles Maître William Bourdon. La comparution est un devoir, renchérit le procureur en désignant le vide à la barre des accusés. Tous deux estiment que Théodorin Obiang se joue de la justice en refusant de se présenter devant le tribunal et que ses avocats multiplient, je cite, « les manœuvres dilatoires ». La décision de renvoyer ou non le procès sera donc annoncée mercredi, mais on sait d'ores et déjà qu'un élément complique la tâche des magistrats. Il s'agit d'une décision rendue le mois dernier par la Cour internationale de justice. La plus haute juridiction internationale a reconnu provisoirement le caractère diplomatique de l'immeuble perquisitionné en 2014 à Paris. Le tribunal pourrait donc se donner du temps pour analyser la portée de cette décision avant d'aborder le fond de l'affaire.
Carole Valade pour RFI. Au Brésil, 60 personnes sont mortes lors d'une émeute dans une prison de Manaus qui a été causée par une guerre entre deux gangs rivales. Des détenus auraient échangé des coups de feu avec la police et tenu des gardes et d'autres détenus en otage durant l'émeute. Arim Lipold raconte pour RFI.
Les autorités de l'État d'Amazonie sont formelles, c'est le plus grand massacre commis dans une prison de cette région. La mutinerie a été provoquée par un affrontement entre deux groupes criminels pour le contrôle du trafic de drogue. Le groupe local FDN, Familia do Norte, et le PCC, premier commando de la capitale. Selon le secrétaire de l'État d'Amazonie à la sécurité publique, Sergio Fontes, les prisonniers ont reçu des armes de certains de leurs collègues qui étaient en régime de semi-liberté. 12 surveillants ont été pris en otage. Les négociations avec les détenus ont duré toute la nuit. Lorsque les policiers ont enfin pu pénétrer dans l'enceinte, ils ont découvert des dizaines de corps, dont beaucoup décapités, des scènes d'une extrême violence, comme un message adressé à la bande rivale, a déclaré Sergio Fontes. La plupart des victimes étaient des membres présumés de l'organisation PCC. Les autorités locales de Manaus ont accusé le gouvernement fédéral de ne pas en faire assez pour combattre la violence liée au trafic de drogue.
La mère de l'un de ces prisonniers a dit que la police n'avait pas cherché à protéger les prisonniers.
My son is an inmate there. The police don't care about him because he's not their relative. I want to know how my son is. My son's in there. This is a bullet.
Et finalement, on termine le journal avec la mort de l'auteur et critique artistique John Berger, qui est mort en France à l'âge de 90 ans. Son travail le plus connu est Ways of Seeing, une critique de l'esthétique culturelle occidentale. Il est aussi récipiendaire du prix Booker pour son livre G. Il avait donné la moitié du prix en argent au mouvement radical afro-américain des Black Panthers. Jetons maintenant un coup d'œil à la météo avant de passer au sport avec Jean-Noël. À Perth, c'est très chaud aujourd'hui, 39 degrés. Adélaïde, 29. Melbourne, 23. Hobart, 21. Canberra, 27. Wollongong, 22. Sydney, 24 degrés. Newcastle, 23. Brisbane, 27. Cairns, 33. Et à Darwin, 30 degrés. On rappelle des grands titres de ce mardi 3 janvier. Le gouvernement australien envisage de rendre le test de citoyenneté plus difficile. Il est de nouveau possible de se baigner à Melbourne après une contamination des plages qui aura duré plusieurs jours. Et en Turquie, l'auteur de l'attentat du 1er janvier à Istanbul est toujours en fuite, mais la police se rapproche.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench